partie, chapitre 4, scène 12. Nicolas Rostov reçut, un peu avant l'ouverture de la campagne, une lettre de ses parents. Il l'informait, en quelques mots, de la maladie de Natacha et de la rupture de son mariage, qu'elle-même avait rompu, disait-il. Il l'engageait de nouveau à quitter le service et à revenir auprès d'eux. Il leur exprima dans sa réponse tous les regrets que lui causaient la maladie et le mariage manqué de sa sœur, les assura qu'il ferait son possible pour réaliser leurs souhaits, mais se garda bien de demander un congé.
« Ami adoré de mon âme,
écrivit-il en particulier à Sonia,
l'honneur seul m'empêche de retourner auprès des miens, car aujourd'hui, à la veille de la guerre, je me croirai déshonoré non seulement aux yeux de mes camarades, mais aux miens propres si je préférais mon bonheur à mon devoir et à mon dévouement pour la patrie. Ce sera, crois-le bien, notre dernière séparation. La campagne à peine finie, si je suis en vie et toujours aimé, je quitterai tout et je volerai vers toi pour te serrer à tout jamais sur mon cœur ardent et passionné. »
Il disait vrai. La guerre seule empêchait son retour et son mariage. L'automne d'Outradnoïet avec ses chasses, l'hiver avec ses plaisirs de carnaval et son amour pour Sonia lui avaient fait entrevoir une série de joies paisibles et des jours tranquilles qu'il avait ignorés jusque-là et dont la douce perspective l'attirait plus que jamais.
« Une femme parfaite, des enfants, une excellente meute de chiens courants, 10 à 12 laisses de lévrier rapides, le bien à administrer, les voisins à recevoir, et une part active dans les fonctions dévolues à la noblesse, voilà une bonne existence. »
se disait-il. Mais il n'y avait pas à y songer. La guerre lui commandait de rester au régiment, et son caractère était ainsi fait qu'il se soumit à cette nécessité sans en éprouver le moindre ennui, et pleinement satisfait de la vie qu'il menait et qu'il avait su se rendre agréable. Reçu avec joie par ses camarades à l'expiration de son congé, on l'envoya acheter des chevaux pour la remonte et en amena d'excellents de la petite Russie. On en fut enchanté, et ils lui valurent force compliments de la part de ses chefs. Nommé capitaine pendant cette courte absence, il fut appelé, lorsque le régiment se prépara à entrer en campagne, à commander son ancien escadron. La campagne s'ouvrit, les appointements furent oubliés. Le régiment, envoyé en Pologne, vit arriver de nouveaux officiers, de nouveaux soldats, de nouveaux chevaux, et il y régna cette joyeuse animation qui se manifeste toujours en début de toute guerre. Rostov, qui savait apprécier les avantages de sa position, s'adonna tout entier au plaisir et au devoir de son service, bien qu'il sût parfaitement qu'un jour viendrait où il le quitterait. Les troupes quittèrent Vilna par suite d'une foule de raisons politiques, des raisons d'État et d'autres motifs, et chaque pas qu'elles faisaient en arrière donnait lieu, au sein de l'état-major, à de nouvelles complications d'intérêts, de combinaisons et de passions de toutes sortes. Quant aux hussards de Pavlograd, ils firent cette retraite sur la plus belle des saisons, avec des vivres en abondance, et toutes les facilités et l'agrément d'une partie de plaisir. Se désespérer, se décourager, et surtout intriguer, était le fait du quartier général. Mais à l'armée, on ne s'inquiétait pas de savoir où on allait et pourquoi on marchait. Les regrets causés par la retraite ne s'adressaient qu'au logement où l'on avait gaiement vécu, et à la jolie polonaise qu'on abandonnait. S'il arrivait par hasard à un officier de penser que l'avenir ne promettait rien de bon, il s'empressait aussitôt, comme il convient à un vrai militaire, d'écarter cette crainte de reprendre sa gaieté et de reporter toute son attention sur ses occupations immédiates, afin d'oublier la situation générale. On campa d'abord aux environs de Vilna. On s'y amusa en compagnie des propriétaires polonais avec qui on avait noué connaissance et en se préparant constamment à des revues passées par l'empereur ou à d'autres chefs militaires. On reçut l'ordre de se replier jusqu'à Sventiani et de détruire les vivres qu'on ne pouvait emporter. Les hussards n'avaient point oublié cet endroit, qui, pendant leur dernier séjour, avait été baptisé par l'armée du nom de camp des ivrognes. La conduite des troupes, qui, en réquisitionnant l'approvisionnement nécessaire, prenaient où elles pouvaient des chevaux, des voitures, des tapis et tout ce qui leur tombait sous la main, y avaient soulevé de nombreuses plaintes. Rostov se souvenait fort bien de Svensiani pour y avoir mis à pied le maréchal des logis le jour même de leur arrivée et de n'avoir pu venir à bout des hommes de son escadron, saoul comme des givres parce qu'ils avaient, à son insu, emporté avec eux 5 tonnes de vieille bière. De Svensiani, la retraite se continua jusqu'à la Drissa, et de la Drissa encore plus loin en se rapprochant des frontières russes. Le 13 juillet, le régiment de Pavlograd eut une sérieuse rencontre avec l'ennemi. La veille au soir, il avait été assailli par une épouvantable bourrasque accompagnée de grêle et de pluie, prélude des tempêtes et des bourrasques qui se retrouvèrent si souvent en l'année 1812. Des escadrons bivouaquaient dans un camp de seigle, dont les épis, foulés et piétinés par le bétail et les chevaux, ne contenaient plus un atome de grain. La pluie tombait à verse. Rostov et Iline, un jeune officier qu'il avait pris sous sa protection, s'abritaient dans une hutte de branchages élevée à la hâte. Un autre officier, dont les joues disparaissaient littéralement sous une énorme paire de moustaches, entra chez eux, surpris par l'orage.
« Je viens de l'état-major, »
dit-il.
« Connaissez-vous, comte, l'exploit de Raïevski ?»
Et il lui conta les détails du combat de Saltanovska. L'officier aux grosses moustaches, nommé Zdgrinski, leur en fit un récit empathique. À l'entendre, la digue de Saltanovka ne rappelait rien moins que le défilé des Thermopyles, et la conduite du général Raïevski, s'avançant avec ses 2 fils sur la digue, sous un feu terrible, pour commander l'attaque, était comparable à celle des héros de l'Antiquité. Rostov l'écouta sans lui prêter grande attention. Il fumait sa pipe, faisait des contorsions chaque fois que l'eau lui glissait le long de la nuque, et regardait Iline du coin de l'œil. Entre lui et cet officier de 16 ans, il y avait aujourd'hui les mêmes rapports que ceux qui avaient existé 7 ans auparavant entre lui et Denisov. Iline avait pour Rostov une adoration toute féminine. C'était son dieu et son modèle. Zdrinski ne parvint pas à communiquer son enthousiasme à Nicolas, qui garda un morne silence, et l'on pouvait deviner à l'expression de son visage que ce récit lui était souverainement désagréable. Ne savait-il pas, par sa propre expérience, après Austerlitz et la guerre de 1807, qu'on mentait toujours en citant des faits militaires et que lui-même mentait en racontant ses prouesses? Ne savait-il pas également qu'à la guerre, rien ne se passe comme on se le figure et comme on le raconte après coup? Le récit ne lui plaisait donc en aucune façon, le narrateur encore moins. Car en parlant, il avait la fâcheuse habitude de se pencher sur la figure de son voisin jusqu'à le toucher presque de ses lèvres et d'occuper en outre beaucoup trop de place dans l'étroite hutte.
« D'abord, »
se disait Rostov, les yeux fixés sur lui,
« la confusion et la presse devaient être telles sur cette digue que, si vraiment Raïevski s'y était lancé avec ses 2 fils, il n'a pu produire d'effet que sur les 10 ou 12 hommes tout au plus qui le serraient de près. » Quant aux autres, ils n'auront certainement pas remarqué avec qui il était, et s'ils s'en sont aperçus, ils s'en seront d'autant moins émus qu'ils avaient dans ce moment à songer à leur propre peau, et que, par suite, le sacrifice de sa tendresse paternelle leur importait fort peu. Et d'ailleurs, le sort de la patrie ne dépendait pas de cette digue. La prendre ou la laisser à l'ennemi revenait au même. Et quoi qu'en puisse dire Zdrinski, ce n'était pas les Thermopyles. Pourquoi alors ce sacrifice? Pourquoi mettre en avant ses propres enfants? Je n'aurais certainement pas exposé ainsi Pétia, ni même Iline, qui est un étranger pour moi, mais un brave garçon. J'aurais au contraire tâché de les placer loin du danger.
Il se garda bien, cependant, de faire part à ses 2 camarades de ses réflexions. L'expérience lui avait appris que c'était inutile, car, comme toute cette histoire devait contribuer à glorifier nos armées, il fallait feindre d'y ajouter une foi entière, et c'est ce qu'il fit sans hésiter.
« On ne peut plus y tenir !»
s'écria Iline, qui devinait la mauvaise humeur de Rostov.
« Je suis mouillé jusqu'aux os. Voilà la pluie qui diminue, je vais m'abriter ailleurs. »
Iline et Zdrinski sortirent. 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que le premier revint en pataugeant dans la boue.
« Hourra, Rostov ! Allons vite, j'ai trouvé. Il y a un cabaret à 200 pas d'ici et les nôtres y sont déjà établis. Nous nous sécherons et Marie Henrikova y est aussi. »
Marie Henrikovna était une jeune et jolie Allemande que le docteur du régiment avait épousée en Pologne et qu'il menait partout avec lui. Était-ce parce qu'il n'avait pas les moyens de l'installer ailleurs ou parce qu'il ne voulait pas s'en séparer pendant les premiers mois de leur mariage? On l'ignorait. Le fait est que la jalousie du docteur était devenue, parmi les officiers de hussards, un thème de plaisanterie inépuisable. Rostov s'enveloppa de son manteau, appela la Vrouchka, lui ordonna de transporter ses effets et suivit Iline. Ils glissèrent, à qui mieux, dans la boue et s'éclaboussaient dans les flaques d'eau. La pluie diminuait, l'orage s'éloignait et la lueur blafarde des éclairs à l'horizon ne perçait plus les ténèbres qu'à de longs intervalles.
« Rostov, où es-tu ? »
criait Iline.
« Par ici, »
répondait Rostov.
« Vois donc quels éclairs !»